C'est l'affaire de la semaine, une polémique qui enfle encore une fois, me direz-vous, en Nouvelle-Calédonie, au plan politique, encore une fois aussi. Le cœur de l'affaire, c'est tout simplement, cette fois-ci, le fait que les élus de Nouvelle-Calédonie, les membres du Congrès, ont appris avec stupeur, en début de semaine, qu'une de leurs collègues, lors d'un voyage en Azerbaïdjan, avait signé un accord engageant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée nationale Azérie, le tout sur fond de revendications de souveraineté, de combat et de soutien pour le peuple kanak indigène de Nouvelle-Calédonie. C'est donc une membre du Congrès qui a signé là-bas. Écoutez ce qu'elle déclarait juste après la signature, de quoi donner à réfléchir et à se gratter sérieusement la tête pour nombre de membres du Congrès, bien sûr, pas les indépendantistes, mais ceux qui ne font pas partie de cette mouvance, les loyalistes.
Et on remercie le gouvernement azerbaïdjanais et on remercie le GIB Group Initiative Bakou, le mouvement des pays non alignés, pour le soutien à cette lutte du peuple kanak. Et on salue le partenariat établi aujourd'hui entre nos deux pays à travers la signature de cet accord de coopération, le mémorandum entre Mili Majlis et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, afin que nos deux pays travaillent ensemble autour des enjeux importants pour l'avenir. On parle de la jeunesse, de la culture, de tout ce qui est question politique également, bien sûr, économique et tout ce qui est enjeu environnemental.
Alors pourquoi une telle signature? Eh bien, peut-être parce que tout simplement cette élue du Congrès fait partie du camp indépendantiste et qu'elle a été discrètement habilitée par le président du Congrès, lui aussi indépendantiste, à signer cet accord de coopération, un mémoire de principes internes, parlementaires, mais qui en dit beaucoup plus entre les lignes encore. Alors, quelques jours après cette signature, la semaine dernière, eh bien, c'est au tour du président du Congrès, justement, Rokwamitan, de finalement s'expliquer devant la presse locale lors d'une conférence de presse. Voilà ses explications.
Bon, en tant que Franck Caisse, elle a été invitée par le groupe d'initiative de Bakou. Voilà. Donc elle était partie comme un Franck Caisse. Moi, je n'ai pas pu me déplacer. Mais du fait qu'elle était là-bas, je lui ai demandé de signer à ma place. Elle a signé P.O. Wamitan. L'Azerbaïdjan a montré sa capacité de nous aider à partir du moment où nous devons trouver des appuis extérieurs du fait que le président Macron est sorti de son impartialité depuis les accords de Matignon. Nous devons aller à l'extérieur pour pouvoir être entendus et que à l'extérieur, les pays qui nous soutiennent prennent des initiatives vers la France notamment pour convaincre le président Macron d'appliquer le droit international ici.
Évidemment, du côté des loyalistes, c'est l'indignation. Écoutez la chef de file du groupe Les Loyalistes au Congrès de Nouvelle-Calédonie, Françoise Suvet, au micro de Nouvelle-Calédonie la première.
On n'a jamais vu le document. Les élus du Congrès n'ont jamais été informés. Et puis en plus, qu'Omira Neslin aille se targuer d'être la représentante du peuple calédonien et de représenter le Congrès, c'est juste inadmissible et inacceptable puisqu'elle n'a aucun mandat pour le faire. Ensuite, le faire avec l'Azerbaïdjan, quand on sait que ce n'est pas un état de droit, c'est un état où la violation des droits de l'homme sont légion, on se pose de sérieuses questions.
Ou encore un autre loyaliste sous étiquette Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer.
Pour nous, ce mémorandum est une honte pour l'institution et c'est pour ça qu'on demande d'abord des explications au Congrès et ensuite que ce mémorandum soit annulé ou déclaré nul et non avenu. Cette initiative ne devrait pas exister. Moi, je la condamne. Évidemment, personne n'est habilité à signer quoi que ce soit. Deuxièmement, il y a une instrumentalisation de l'institution derrière un objectif politique. Donc si le FLNKS veut se déplacer en Azerbaïdjan, c'est son droit, mais pas l'institution. Et puis enfin, c'est l'Azerbaïdjan, donc, c'est-à-dire un des pays les pires au monde, une dictature. Où... Pourquoi choisir ce pays alors qu'il y a des États dans la région avec lesquels on peut avoir de réelles coopérations?
Alors, au fond du problème, loin des manœuvres politiques, il y a quand même la question des compétences d'une institution comme le Congrès et celle de la Nouvelle-Calédonie en matière de relations internationales, des compétences qui, jusqu'à nouvel ordre, et c'est spécifié dans l'accord de Nouméa, doivent s'exercer encore, en tout cas sur une base partagée, avec l'État français. Clairement, le Congrès à majorité indépendantiste semble avoir outrepassé ses compétences et un petit peu mélangé aussi le rôle d'une institution et celui d'un parti politique, en l'occurrence l'Union calédonienne indépendantiste. Les activités de l'Azerbaïdjan, de son côté, n'en sont pas à leur premier essai, en mode attaque, notamment dans le Pacifique, et plus particulièrement contre la France. Tout cela à cause des relations très tendues entre Paris et Bakou. Déjà, au mois de septembre dernier, une supposée journaliste de ce pays avait été interceptée à la frontière à son arrivée en Nouvelle-Calédonie à l'aéroport de Nouméa, la Tontouta, alors qu'au même moment se tenait à Nouméa une réunion régionale des ministres de la Défense du Pacifique Sud, sous le haut patronage de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense français. Elle avait été interceptée à la douane, donc cette journaliste, et remise dans un avion en mode expulsion. Il y avait aussi au même moment une manifestation qui était prévue par les indépendantistes et que la journaliste entendait couvrir. Depuis, en tout cas, les services français parlent d'espionnage et d'opérations de déstabilisation visant la France et ce que Bakou appelle le colonialisme français dans le Pacifique. Pendant ce temps-là, en Nouvelle-Calédonie, la vie continue, c'est toujours la crise dans la filière nickel, secteur en crise grave, des activités d'extraction dans le nord du pays qui n'ont toujours pas repris, la mise aux discussions à une commission spéciale du Congrès, encore une fois, qui veut tout réexaminer et tout remettre sur la table concernant un plan de sauvetage du nickel proposé par Paris au mois de novembre dernier et qui depuis n'est toujours pas signé, avec pourtant à la clé plus de 200 millions d'euros en aide d'urgence pour justement sauver les usines de transformation de la faillite pure et simple. Alors du coup, dans ce climat de tension et de rivalité entre Washington et Pékin, par exemple, les alliances du bloc occidental se réaffirment encore plus en Océanie. Le 26 avril, ce sera à nouveau, comme chaque année, l'Anzac Day, une commémoration dédiée aux victimes des deux guerres mondiales, surtout côté australien et néo-zélandais. Victimes disparues sur le sol français. Et cette année, eh bien, c'est l'occasion aussi pour Paris, Wellington et Canberra de saisir l'opportunité pour réaffirmer leurs liens étroits et historiques. Il y aura, comme d'habitude, de nombreuses commémorations, les cérémonies du point du jour avec lever de drapeau, aussi bien à Nouméa qu'à Paris ou à Canberra, et beaucoup d'autres endroits encore en Australie ou encore à Wellington et à Auckland. À chaque fois, bien sûr, chacune des trois parties prend bien soin d'envoyer un représentant pour participer à ces cérémonies placées sous le signe du devoir de mémoire. Pas seulement d'ailleurs en face d'un drapeau et de cérémonies du point du jour, mais aussi dans le feu de l'action, par exemple de nouvelles manœuvres en mer aux Philippines qui voient en ce moment la participation d'une frégate française basée à Nouméa, le Vendémiaire, aux côtés des forces navales américaines et philippines, alors que chacun le sait, cette région est une zone de forte tension entre Manille et Pékin. Et puis prochainement, en Nouvelle-Calédonie, dans les jours qui viennent, ça commence déjà d'ailleurs une nouvelle série de manœuvres qui vont se dérouler sur Terre, en compagnie non seulement du pays hôte, c'est-à-dire les forces françaises armées en Nouvelle-Calédonie, mais aussi la participation de soldats australiens et néo-zélandais. Encore une fois, on retrouve les mots-clés, la coopération, la préparation et surtout l'interopérabilité dans le cadre de mobilisation, de manœuvres dans tout le Pacifique. Avec comme point d'orgue, là-bas aussi, on verra des cérémonies de souvenirs en mémoire des disparus des deux guerres mondiales pour cette Anzac Day. Une occasion rêvée, bien sûr, pour Pékin de dénoncer une escalade dans la militarisation et même au plan maritime d'accuser l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni d'être la cause d'un retour d'une prolifération nucléaire dans le Pacifique, notamment avec ces nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire que compte acquérir l'Australie, entre autres. Et si on parle encore une fois d'alliance entre des pays du Pacifique insulaire et la Chine, eh bien, le sujet n'est toujours pas conclu ni traité. Il dure toujours depuis la semaine dernière. Et là, on parle des élections législatives aux îles Salomon. Les résultats, depuis presque une semaine, arrivent toujours, mais lentement, au compte-gouttes. Et puis, l'histoire ne s'arrête sûrement pas là, parce que tout simplement, aucun parti ne pourra disposer d'une majorité suffisante pour former un gouvernement à lui tout seul, aucune majorité absolue, et donc maintenant, cela fait déjà plusieurs jours que ça dure, ce sont des pourparlers très discrets, souvent dans des chambres d'hôtel, loin des regards, qui se poursuivent pour essayer de séduire le maximum de nouveaux députés non affiliés en particulier. Ce sont eux, en fait, qui ont le pouvoir de faire pencher des toutes petites majorités d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire soit en faveur du Premier ministre sortant pro-chinois Manasé Sogavare, soit en faveur d'une autre coalition plutôt pro-Occident qui serait dirigée par au moins deux anciens premiers ministres pressentis. C'est un peu la politique façon mélanésienne qu'on peut aussi très bien retrouver à Port Moresby ou à Port Vila. Allez, pour finir, la blagounette, même si ça parle de la guerre, la blagounette de la semaine de tonton Joe Biden, lui qui aime à raconter, quand ça lui prend, que son oncle aurait été dévoré par des cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire finalement pas très fut-fut, pas très drôle, et dont on doute encore qu'elle soit vraiment exacte, en tout cas une histoire qui ne fait jamais rire le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, un chef de l'exécutif papou qui essaye, tant bien que mal, de ne pas créer d'incidents diplomatiques, de ne pas s'indigner, et tout simplement, il dit que le vieux président américain, décidément parfois, a ce qu'il appelle des moments de confusion. Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'oncle du président Biden, un certain Ambrose Finnegan, est bien mort pendant la Seconde Guerre mondiale, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que son avion s'est écrasé. Il y avait 4 occupants, un seul survivant, les 3 autres, dont l'oncle de Joe Biden, n'ont jamais été retrouvés. De là à dire qu'ils ont été mangés par des cannibales, des vilains papous, il y a quand même une marge. En tout cas, ça a permis au chef du gouvernement papou de demander au président Biden de faire la lumière sur cette affaire et de faire en sorte aussi que les États-Unis fassent des recherches pour retrouver éventuellement des restes humains qui seront sûrement identifiés comme étant tout simplement décomposés, sûrement pas boulottés par des vilains nègres. Et puis au passage, tant qu'on y est, il a demandé aux États-Unis de nettoyer, et ça c'est sans rigoler, des tonnes de munitions, pour certaines encore actives et donc très dangereuses, des tonnes de munitions que les Américains ont laissées derrière eux après la fin de la guerre du Pacifique. Et ça, c'est loin d'être une blague. Ainsi va la vie en Océanie. Je vous souhaite une bonne semaine.